Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 9h à Washington et à Port-au-Prince.
RFI Midi. Anne Contenaire.
Dernière partie d'RFI Midi avec Haïti à la une de cette demi-heure américaine et un symbole attaqué par les gangs, les bureaux de la radio-télévision Caraïbe incendiés. Notre correspondant a rencontré des employés du média. Reportage dans quelques minutes. Nous avons aussi la chance aujourd'hui de recevoir le cinéaste haïtien Samuel Suffren pour parler de la vie quotidienne en Haïti et de son travail, et notamment de ses films qui sont centrés sur l'exil et le départ. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour, Benoît Ferrand importait des matières premières caribéennes, les transformer sur place, puis les exporter. C'est le grand projet de la collectivité territoriale de la Martinique.
Avec une zone exclusivement consacrée à ce projet, pas très loin de Fort-de-France et de l'aéroport international. Interview du patron de la collectivité territoriale à suivre.
À tout à l'heure. Et tout de suite le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Contenaire, bonjour à tous.
Le président français reçoit les patrons des grands groupes de défense aujourd'hui.
Oui, dans un contexte d'économie de guerre, ces industriels sont appelés à augmenter leur cadence et à répondre à un afflux de commandes. Quant au budget de la défense, les 413 milliards d'euros prévus dans la loi de programmation militaire 2024-2030, cette somme a déjà été dépensée. Franck Alexandre, l'armée française doit trouver de nouvelles ressources pour répondre aux menaces.
L'état-major des armées a rendu sa copie et l'ardoise est vertigineuse. Il faut ajouter à l'armée de terre 10 régiments, soit un peu plus de 10 000 hommes. Pour la marine, il faut 3 frégates de premier rang pour passer à un format de 18 navires. Il faut également 30 rafales supplémentaires, 10 pour le porte-avions et 20 pour l'armée de l'air. Total de la facture, plusieurs dizaines de milliards d'euros. À Bercy, au ministère des Finances, ils sont en PLS, souffle un officier de haut rang. Le financement est un casse-tête, mais la production de matériel l'est tout autant. Invité à accélérer, Dassault, par exemple, ambitionne de fabriquer jusqu'à 5 rafales par mois. Et l'armurier KNDS parvient à produire un canon César tous les 4 jours. Mais l'outil industriel pâtit de goulots d'étranglement. Les fournisseurs ne parviennent pas à suivre la cadence. L'industrie de défense est encore trop fragmentée. Les Européens sont aussi trop dépendants du matériel américain. Et c'est un frein sérieux à l'émergence de géants industriels sur le continent européen.
Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense. Donc Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Élysée les grands acteurs de la défense. Il sera mardi prochain à Berlin pour y rencontrer le chancelier sortant Olaf Scholz. Au menu, la situation en Ukraine et la préparation du Conseil européen les jours suivants. Sans être opposé au principe d'une trêve, Vladimir Poutine a souligné hier que des questions importantes devaient être réglées concernant la proposition américaine d'un arrêt des combats durant 30 jours. Sur le terrain, la Russie affirme avoir abattu 4 drones se dirigeant vers Moscou. Une autre attaque de l'Ukraine a provoqué un incendie dans un dépôt de pétrole dans le sud-ouest de la Russie.
Il ne devrait pas y avoir de shutdown aux États-Unis. Ce blocage budgétaire devrait être évité.
Oui, Chuck Schumer, le chef des démocrates au Sénat, a opéré un revirement spectaculaire pour éviter ce shutdown ce vendredi minuit. Il a prévenu qu'il voterait le projet de budget soutenu par Donald Trump, un projet que les démocrates ont jusqu'à maintenant refusé d'approuver en raison des coupes drastiques prévues dans les administrations. Anne Verdaguer, la volte-face de Chuck Schumer pourrait changer la donne.
Oui, un shutdown ne fera aucun gagnant, mais que des victimes, écrit Chuck Schumer dans une tribune publiée ce vendredi dans le New York Times. Et ces victimes potentielles sont les plus vulnérables d'entre nous, ajoute-t-il. Pour le chef des démocrates au Sénat, il n'y a pas le choix. Ce projet de budget doit passer, même s'il est profondément partisan. Les républicains prévoient des coupes à hauteur de 13 milliards de dollars, notamment dans les domaines de la couverture santé ou encore de l'assistance aux plus démunis, alors que le budget défense sera lui augmenté de 6 milliards.
Et en tout cas, le ténor démocrate pourrait emporter dans son sillage plusieurs autres sénateurs de son camp.
Oui, certains ont déjà annoncé qu'ils voteraient pour le projet de budget à contre-cœur. L'aile la plus à gauche du Parti démocrate parle, elle, de capitulation. Anticipant ces critiques, Chuck Schumer a pris la parole au Congrès hier pour apporter un autre argument plus politique. Une paralysie budgétaire donnerait, selon lui, à Donald Trump et Elon Musk carte blanche pour détruire des services essentiels de l'État à un rythme bien plus élevé, car il deviendrait encore plus incontrôlable.
Merci pour ces explications, Anne Verdaguer.
De nombreux Gazaouis bloqués en Cisjordanie occupée.
Oui, ils sont des centaines dans ce cas, des habitants de Gaza qui étaient de passage en Cisjordanie occupée avant les attaques du 7 octobre 2023, pour s'y faire soigner par exemple. Désormais, ils sont bloqués. 17 mois d'attente, une éternité, explique-t-il au micro d'Amira Swilem, qui a rencontré plusieurs d'entre eux dans un hôtel de Ramallah.
Les yeux embués, Farage se repasse en boucle des vidéos de son fils.
Je parle avec lui quand ils arrivent à avoir Internet. Je veux qu'il puisse me voir et qu'il se familiarise avec son père. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu le voir en vrai ni le prendre dans mes bras. Si on me propose de rentrer à Gaza, je rentrerai tout de suite, au plus vite. Mon père a été tué, je n'ai pas pu lui faire mes adieux. J'ai eu un fils et je ne l'ai toujours pas vu. C'est très difficile.
Farage était venu se faire soigner de sa leucémie à Ramallah. Depuis, il y est bloqué. Comme lui, ils sont 90 Gazaouis à vivoter dans cet hôtel. Autour d'une rupture de jeûne en ce mois de Ramadan, ils tentent de retrouver un semblant de normalité. Nawaf Hamed, le propriétaire de l'hôtel, distribue de larges sourires à ses hôtes. La nuit, confie-t-il, quand il passe dans les couloirs, il entend leurs pleurs étouffées.
La plupart ont perdu leur maison ou des proches. En plus, ils n'ont pas de revenus. Quand vous parlez avec eux, ils sont là physiquement, mais ils ne sont pas là. Vous sentez qu'ils sont ailleurs. Cela devient trop long. On n'a plus la force de faire face à cela.
Alors qu'Israël pousse au départ forcé des Gazaouis de l'enclave palestinienne, le retour de ces naufragés de la guerre n'est clairement pas à l'ordre du jour. Amira Sulem, Ramallah, RFI.
Et à propos toujours des habitants de Gaza, d'après l'agence Reuters, les États-Unis et Israël ont contacté trois pays de la Corne de l'Afrique dans le but d'y transférer des Palestiniens, le Soudan, la Somalie et la région sécessionniste du Somaliland, des contacts sans résultat. Enfin, le Hamas annonce qu'il est prêt à libérer un otage israélo-américain et à rendre les dépouilles de quatre autres otages binationaux. Transféré cette semaine depuis Manille aux Pays-Bas, l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, comparé actuellement pour la première fois devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il est poursuivi devant la CPI pour crimes contre l'humanité présumés. Selon les ONG, sa campagne sanglante contre le narcotrafic a fait des dizaines de milliers de morts aux Philippines.
Le niveau des océans continue de s'élever.
Il continue de s'élever sous l'effet du réchauffement climatique. 2024 a même connu un rythme record selon la NASA, l'agence spatiale américaine, qui se dit même surprise de cette élévation. Simon Rosé, les responsables sont les activités humaines et leur utilisation de combustibles fossiles.
Et oui, 6 mm l'élévation du niveau de la mer en 2024. Alors, ça n'a pas l'air de grand-chose présenté comme ça, mais à l'échelle du globe et en une seule année, c'est du jamais vu de mémoire d'humain. Et c'est bien plus que ce qu'anticipaient les scientifiques. Jusqu'à présent, c'est la fonte des calottes de glace de l'Antarctique et du Groenland, ainsi que le dégel des glaciers continentaux qui constituait le principal moteur. Mais 2024 est également exceptionnel, car un autre phénomène a pris le relais l'an dernier, la dilatation thermique, Gilles, car l'eau chaude prend plus de place que l'eau froide, et les océans sont depuis 2 ans en surchauffe. Cela est responsable des 2/3 de l'élévation constatée l'an dernier selon la NASA. En cause, vous le disiez, les émissions humaines de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Les 10 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, avec le record absolu pour 2024. En conséquence, le rythme de montée des eaux s'accélère, plus 10 cm depuis les années 90, un demi-mètre en plus estimé en 2050. 800 millions de personnes vivant dans 570 villes côtières seront alors menacées.
Simon Rosé, merci. Si enfin, Donald Trump a menacé les Européens d'imposer des droits de douane de 200% sur leur champagne, vins et autres alcools. Commentaire ce matin du ministre français de l'économie. Il dénonce, je cite, une escalade ainsi qu'une guerre idiote. Voilà, bonne journée sur RFI, tout de suite avec Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain et on prend d'abord la direction d'Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Où les gangs, en plus de multiplier les attaques contre les forces de l'ordre, contre les civils, s'en prennent aussi aux symboles et notamment à la presse. Hier, la coalition criminelle Vivre Ensemble a attaqué les locaux de l'un des plus grands médias du pays, les bureaux de la radio-télévision Caraïbes. Ils étaient vides, délaissés, justement à cause des violences, mais les gangs ont incendié les bureaux. Peterson Luxama.
Une fumée noire s'élève du bâtiment. Les locaux de la radio-télévision Caraïbes ont été partiellement incendiés par les gangs armés. Une attaque qui choque et attriste les employés de la station à l'image de Denel Saint-On.
C'est consternation totale. C'est la consternation totale, avec beaucoup de frustration également. Car incendier les locaux de Radio Caraïbes, une station qui existe depuis 76 ans, c'est s'attaquer à un patrimoine. C'est toute une histoire qui est partie en fumée.
Indignation aussi chez Guerrier Dieu Seul, présentateur et l'un des directeurs d'information de la radio depuis plusieurs années. Selon lui, c'est un grand symbole de la presse haïtienne qui est attaqué.
La direction générale de Radio-Télévision Caraïbes exprime sa profonde indignation et sa tristesse. RTVC demeure un pilier incontournable de la liberté d'expression et du droit à l'information en Haïti.
S'il est vrai que la direction de la radio avait abandonné le local, des équipements essentiels de la station se trouvaient encore dans cet espace. Malgré tout, les responsables n'entendent pas si c'est leur mission d'information, assure Guerrier Dieu Seul.
Cet acte de violence ne fera que renforcer notre engagement à poursuivre notre mission malgré les menaces et les défis.
L'incendie de la RTVC rappelle une fois de plus que la capitale est livrée aux gangs et personne n'est à l'abri de leurs exactions. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et l'incendie de la radio-télévision Caraïbe fait aussi réagir la presse haïtienne que vous avez lue pour nous, Marine de la Moissonnière.
Oui, la presse locale qui partage la consternation qu'on vient d'entendre dans le reportage de Peterson Luxama, a commencé par le Nouvelliste, dont les locaux ont été vandalisés par les gangs il y a presque un an. La presse continue d'encaisser les coups, déplore Franz Duval. À chaque fois qu'un média est attaqué, ce sont des souvenirs que nous perdons, c'est notre humanité que nous perdons, c'est notre histoire que nous perdons. Se désole le rédacteur en chef. Chef du quotidien. Le Nouvelliste souligne que les médias ne sont pas les seules cibles. Toutes les institutions du pays, sans distinction aucune, sont attaquées, pillées, brûlées. N'importe qui peut perdre la vie au détour d'une rue ou d'une adresse qui hier encore était accueillante. C'est pour nous tous que nous devons nous inquiéter, insiste le journal.
Le Nouvelliste qui s'inquiète tout particulièrement de la situation à Port-au-Prince.
La capitale haïtienne continue de sombrer, peut-on lire dans le journal. Les gangs ont intensifié les attaques contre les rares quartiers qui échappaient jusque-là à leur contrôle. Plus les jours passent, plus les malfrats grignotent des territoires, emportant vis et bien, explique le Nouvelliste qui liste toutes les cibles de ces derniers jours. Carrefour Feuille, Christ-Roi, Lalu, Bourdon, le quartier de Delmas 30, la faculté des sciences humaines a même décidé de fermer ses portes. Toutes les activités auront désormais lieu à distance. Les quartiers de la commune de Port-au-Prince qui n'ont pas encore été attaqués durant cette nouvelle vague de violence sont rares. Insiste le Nouvelliste, tous vivent sous la menace des gangs.
Et cette situation, les Haïtiens n'en peuvent plus. Le Nouvelliste nous apprend que des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Léogane hier pour demander aux autorités d'agir et notamment de donner aux policiers des moyens d'empêcher les gangs d'envahir la ville. On va continuer à parler d'Haïti puisque nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui dans notre studio le cinéaste Samuel Suffren. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, vous êtes producteur, vous êtes aussi président de l'association KIT qui réunit des cinéastes et des photographes. Vous vivez, pas tout le temps, mais vous vivez encore en Haïti de temps en temps. Est-ce que vous avez subi les conséquences de ces violences dont on parlait à l'instant ?
Je pense que tout le monde aujourd'hui fait face à cette violence-là, cette vague de violence. Moi, j'ai dû fuir mon appartement il n'y a pas longtemps de cela. Et parce que les gangs envahissaient un peu le quartier Debussy, Canapé Vert et tout. Moi, j'habitais un peu au Ropaco. Je me suis hébergé chez ma sœur à Telma. Donc, du coup, on essaie de trouver comment vivre dans cette vague de violence. Mais on est tous, on ne sait pas trop comment s'en sortir, mais on est tous dans cet espace-là, ouais.
Vous travaillez beaucoup sur l'exil. Est-ce que c'est un sentiment qui habite vos proches qui sont en ce moment à Port-au-Prince et dans la zone métropolitaine ?
Je pense que la question de rester et de partir, c'est une question évidente qui est là partout en fait aujourd'hui, avec la jeunesse, les artistes, etc. Donc on se demande comment vivre dans ce pays. Moi, je dirige un festival avec le collectif dont je fais partie, KIT. Ça fait 6 ans qu'on le fait, mais à chaque année, la thématique devient les mêmes thématiques, quoi, du genre comment vivre dans ce pays, on est zombifié ou exilé dans son pays. Donc du coup, ouais, on est face à ça et habiter, rester, partir, c'est une vraie question en fait.
Qu'est-ce qui vous avait poussé à travailler sur ce thème-là en premier lieu ?
En premier lieu, il y a eu mon père, parce qu'en 1981, mon père, il avait fait le voyage pour aller aux États-Unis par bateau, avec le phénomène Boat People et tout. Et quand il m'a raconté cette histoire, son rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Il me disait que personne ne devait mourir sans voir les gratte-ciel de New York, etc. Et là, un jour, il m'a annoncé qu'il allait chanter aux États-Unis avec son groupe. J'ai commencé à le filmer. Quand il est mort, il n'a pas pu aller aux États-Unis. Et je me suis accaparé de cette histoire-là parce que j'ai été à Port-de-Paix et j'ai vu mon père, il était 22. En bateau, quand j'étais à Port-de-Paix en 2021, les gens étaient plus de 400 personnes, en fait, qui partaient. Là où mon père est parti en 81, en 2021, ça n'a pas changé, ça a même été pire, quoi. Donc, du coup, à ce moment-là, je me suis intéressé à parler de ça, mais vraiment en abordant la question du point de vue de ceux qui restent, pas ceux qui partent, en fait.
Alors, justement, c'est effectivement quelque chose que vous évoquez dans un de vos films, dont l'héroïne part, une femme part, elle laisse son mari et ouais. son enfant, elle leur laisse une cassette ouais. qu'ils écoutent, qu'ils réécoutent en boucle sur laquelle on entend sa voix. Qu'est-ce qui reste justement à ceux qui sont toujours en Haïti et qui voient leurs proches partir ?
Tout ce qui reste, je pense, c'est l'espoir, en fait. L'espoir de voir cette personne un jour, l'espoir que cette personne va revenir un jour, va revenir aussi avec un peu d'argent, va gagner sa vie en étant à l'extérieur, mais aussi celle qui reste ou la personne voilà, qui est restée, elle souffre en fait. Parce que imagine que t'as un père, t'as une mère, t'as un amant, une amante qui monte un bateau. Comment on monte un bateau? Comment on fait cette traversée-là? Comment et dire s'accrocher à la vie ou à la mort, je sais pas. C'est-à-dire que donc là, j'étais très intéressé à dire voilà celui qui attend, comment il attend? Comment on attend une personne après 15 ans dans l'incertitude? Donc voilà.
L'attente, elle peut durer très longtemps. C'est ce que vous filmez dans votre film Agoué, qui avait été sélectionné au Festival de Locarno, sacré meilleur film de la diaspora, ouais. au FESPACO au Burkina.
Capitaine Philippe dit que tu vas aller dans le jour. Là, hein. Il y a la préchasse. Hein.
Ce film-là, il raconte l'exil d'un homme, cette fois, qui part en laissant sa femme enceinte de 6 mois. Et elle, des années et des années après, elle l'attend toujours. Elle n'arrive pas à passer à autre chose.
Ouais, c'est incroyable parce que la traversée, tu sais, beaucoup de gens sont morts, en fait, dans la traversée. Donc, du coup, moi, mon père, il est resté 22 jours en mer sans boire. Il buvait que de l'eau de la mer, quoi. C'est-à-dire que c'était miraculeux. C'était un mort-vivant, en vrai. C'est-à-dire que comment on attend quelqu'un? Justement, je me suis accaparé de ça, mais de se dire quoi, la mort peut être... Comment accepter la mort de quelqu'un sans voir son corps? C'est quand même très compliqué. Donc, du coup, l'attente, c'est l'espoir. Tout ce qu'on a, même aujourd'hui en Haïti, tout ce qu'on a, c'est même dans l'adversité, dans ce malheur, tout ce qu'on a, c'est l'espoir de dire qu'un jour... Ça va changer. Un jour, la lumière va jaillir. Donc, tout ce qu'on a, en fait, c'est l'espoir.
Vous avez parlé tout à l'heure de zombification pour décrire le quotidien aujourd'hui en Haïti. Agoué, c'est le nom d'une divinité vaudou. Qu'est-ce qu'il représente?
En fait, et quand j'étais à Jacmel pour faire le film, et le film ne s'appelait pas comme ça, en fait. C'est vraiment comme j'ai fait. Mes films ont vraiment un porté très documentaire parce que je retourne beaucoup avec les gens du village, dans les marchés publics, etc. Et là, les gens, on avait une scène avec des bateaux sur la mer, on envoyait du riz. Et là, ils disent, écoute, ça, c'est Agoué, en fait. C'est une cérémonie pour Agoué. Mais Agoué, c'est la divinité des océans, tu vois. Je me rappelle quand j'ai été aussi à Port-de-Paix, les gens disent, écoute, il faut que Agoué nous laisse passer. Il faut le passage de cette divinité-là qu'on fait la traversée. Donc du coup, pour moi, c'était important, la symbolique est très importante de titrer le film Agoué parce que c'était la divinité des océans, c'était le Dieu qui laisse passer, le Dieu qui laisse passer l'espoir, le Dieu qui laisse passer l'ailleurs, quoi. C'est ça, en fait.
Avec beaucoup d'incertitudes, dans ce film, votre héroïne dit « La mer est la meilleure amie des frontières ouais. ». Qu'est-ce qu'elle représente, la mer, pour les Haïtiens? C'est un espoir ou un danger ou tout ça à la fois?
C'est-à-dire que la mer, c'est la traversée, en fait. On habite déjà une île. C'est-à-dire qu'on est entouré de la mer. Donc, en même temps, cette mer-là, c'est la mer qui nous égorge, en fait. C'est-à-dire qu'après, les terres sont séparées par la mer. C'est-à-dire que, autant que c'est l'espoir pour nous, mais autant c'est cette mer-là qui met les frontières, en fait. C'est à partir de là qu'on arrive, quand les gens, avec les bateaux de 400 personnes, arrivent à Miami, sur les plages de Miami, et c'est là qu'ils se jettent, en fait. C'est à la mer qu'ils se jettent. Et pourquoi? Pour pouvoir vraiment se libérer, de dire, bon, on est arrivé sur le sol des Américains, on va vivre le rêve américain, qui souvent n'est pas un rêve, en fait.
Surtout peut-être en ce moment, puisque la nouvelle administration Trump a fait savoir qu'elle avait des projets extrêmement durs contre toutes les personnes immigrées et en particulier contre les Haïtiens. Elle a promis des expulsions extrêmement nombreuses, la plus grande opération d'expulsion de l'histoire du pays. Est-ce que les États-Unis continuent quand même à faire rêver?
Je pense que oui, parce que il y a aussi le côté les gens qui sont partis, tu sais, quand les gens qui partent aux États-Unis, au Canada, enfin, je sais pas, c'est la honte de retourner chez soi sans rien, sans gagner sa vie. Tu sais, à un moment, les gens se prenaient en photo devant leur frigo et envoyaient des photos en Haïti, etc. Tu vois, il y a les œufs, il y a du poulet, il y a donc du coup, oui, mais après. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est un message. C'est-à-dire, on a le devoir de faire pays. Les Haïtiens ont le devoir de faire le pays.
Et quel rôle la culture, le cinéma peut jouer dans tout ça?
En fait, je pense que c'est essentiel. Nous, depuis, je ne sais pas, des temps et des temps, on n'a que ça. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question de... Je parlais à une amie qui me disait, mais tu vois comment la subvention partout dans le monde, ils sont en train de couper la culture, etc. J'ai dit, mais nous, on a jamais eu de subvention. Nous, ça ne nous fait rien. Ça a été toujours viscéral. C'est-à-dire que pour nous, la culture, c'est la chose qui nous permet d'exister, de vivre, en fait. Et là, à Port-au-Prince, il y a plein de festivals. On est dans un pays en guerre. Là, en décembre, on a organisé notre festival avec le collectif. Pour le lancement, malheureusement, il y a eu des plis de balles. Deux personnes sont atteintes en fait pendant le lancement du festival, mais on l'a pas arrêté. On voulait l'arrêter. Les gens ont dit mais non, il faut continuer. Donc on a fait un festival dans les camps des déplacés, dans des quartiers qui sont encore accessibles. Voilà, pour nous, c'est viscéral. On n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre issue en fait.
Merci beaucoup Samuel Suffren d'être venu dans nos studios pour parler donc de votre pays d'Haïti et de votre travail et ces festivals. Ils existent donc notamment grâce à des associations comme la vôtre, KIT, qui réunit des cinéastes et des photographes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
RFI, The World's Voices. L'actualité du continent, ce sont aussi les États-Unis et c'est à lire dans la presse du pays, Marine de la Moissonnière. Les journaux se font l'écho du revers que deux juges ont infligé à Donald Trump hier. Les licenciements d'employés d'agences fédérales ont été annulés.
Oui, comme le souligne le New York Times, ce sont des dizaines de milliers de fonctionnaires qui vont retrouver leur poste ou recevoir une indemnité de licenciement des employés qui étaient en période d'essai. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tout fonctionnaire qui change de poste, même au sein de la même administration, est considéré comme étant en période d'essai pendant 1 ou 2 ans. Officiellement, ces fonctionnaires avaient été renvoyés à cause de leurs mauvais résultats. Mensonges, ont estimé les deux juges qui ont vu une manœuvre pour tenter de déguiser des licenciements collectifs destinés à réduire le poids de l'État tout en s'affranchissant des obligations légales.
Mais ces deux décisions ne signifient pas pour autant la fin des licenciements au sein des agences fédérales.
Oui, elles offrent un répit important mais temporaire à des milliers de personnes, explique le New York Times, car les deux juges ne se sont pas prononcer sur le fond du dossier. Et puis, comme l'a souligné l'un des deux magistrats, il peut tout à fait y avoir des réductions d'effectifs au sein d'une agence fédérale à condition de respecter les règles.
Tout cela n'empêche pas Donald Trump de continuer à tailler dans les défenses publiques et la nouvelle victime, c'est l'université Johns Hopkins.
Oui, cette prestigieuse université à la pointe de la recherche médicale a vu son budget amputé de $800 millions, rapporte le Washington Post. Conséquence, la suppression de 2000 emplois dans 44 pays et des inquiétudes pour l'avenir de cette université, car l'an dernier, la moitié de son financement était de l'argent public. Or, Donald Trump semble vouloir continuer à tailler dans les dépenses fédérales. De nombreux programmes de recherche vont devoir s'arrêter, comme par exemple des études sur le VIH. Plus ils couperont dans le budget, plus les gens mourront, se désole un chercheur dans les colonnes du journal. Et au-delà de ces coupes budgétaires pourraient également avoir un impact économique, comme le raconte le quotidien américain Johns Hopkins, qui est installé à Baltimore, est un acteur essentiel pour le Maryland. C'est l'un des principaux employeurs de cet État. 55 000 salariés, rien que dans le Maryland, 90 000 au total. Un impact économique de $15 milliards, résume le Washington Post.
Marine de la Moissonnière pour la revue de presse, à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, on vous retrouve, Benoît Ferrand. Importer des matières premières caribéennes, les transformer sur place et les exporter, voilà le grand projet qui est porté par la collectivité territoriale de la Martinique.
La zone exclusivement consacrée à ce projet devrait être implantée à Ducos, pas très loin de Fort-de-France donc, et de l'aéroport international. Et pour ce qui est de l'exportation, deux ports francs seraient créés. Écoutez le président de la collectivité territoriale de la Martinique, la CTM, Serge Letchimy, est au micro de Franck Zozor.
Nous avons négocié deux ports francs, le port de Fort-de-France et le port du Robert. C'est en cours aujourd'hui. Les travaux vont commencer bientôt. Et nous avons demandé de qualifier ces zones-là en termes d'avantages fiscaux et sociaux. Et nous avons très clairement indiqué que les 70 hectares que nous visons sera la plus grande zone d'activité d'outre-mer. Et nous avons demandé à M. Val que nous souhaitons que Pays-Navier soit ce qu'on appelle un OIN, c'est-à-dire une opération d'intérêt national. Quand je dis national, c'est doublement national, c'est à la fois France, mais aussi local. Qu'on puisse avoir une convergence de production pour muter l'économie. Parce que c'est bien de condamner l'économie de comptoir, mais qui sont remettés derrière. Donc on propose un espace expérimental de transformation économique qui pourrait reconfigurer complètement l'orientation économique du pays. Vous avez déjà des tentatives autour de soja, maïs réexporté, ou quoi transformer, ou quoi réexporter. Le bois, les matières premières de base, les pierres précieuses, c'est véritablement une réorganisation de l'économie qui est prévue.
On passe à un secteur économique plus traditionnel aux Antilles, le tourisme, avec des indicateurs 2025 pour l'instant plutôt encourageants. Franck Aristide est de la première Guadeloupe.
Plus 35% de recherche sur Abritel et Expedia pour la Guadeloupe, plus 25% pour la Martinique par rapport à l'an dernier. Nos destinations sont particulièrement ciblées par la clientèle touristique française pour les prochaines vacances de Pâques lorsqu'elle choisit de partir loin. Une explication, notamment selon l'étude des moteurs de recherche, nos destinations sont d'habitude en concurrence avec le sud des États-Unis, comme la Floride, voire également avec le Mexique. Sauf que la forte inflation sur le territoire américain, doublée de la nouvelle donne politique avec l'élection de Donald Trump, dissuade de plus en plus les touristes de choisir les USA. Ils pourraient alors se reporter sur les Antilles, qui ont donc une nouvelle carte à jouer. Pour autant, nos régions ne sont pas en tête du peloton des recherches. L'Asie, avec le Japon, la Thaïlande, les Philippines et enfin le Vietnam raflent la potentielle mise, notamment en raison du coût de la vie bien moins élevé.
Bon après-midi, bon week-end, Anne. À lundi.
À lundi, Benoît Ferrand. On se quitte en musique. Avec Sorongo de Susanna Baca, c'est à écouter en ce moment dans la playlist RFI.
Aujourd'hui, vous restez sur notre antenne. Dans quelques secondes, Littérature sans frontières avec Catherine Fruchon-Toussaint. Et moi, je vous retrouve lundi à 11h30 temps universel. Bon week-end.